Chapitre 3. Les premiers rayons de l'aube colorent les rares nuages d'un rose profond, prémices de l'une de ces belles matinées de printemps claires qui gardent encore un peu de la vivifiante fraîcheur de l'hiver tout juste achevé. Pour Vincent, le chemin de la butte a toujours constitué une sorte de raccourci vers un autre monde, une frontière entre deux univers. En le gravissant, il laisse derrière lui la capitale pour regagner son quartier. Même si Montmartre est désormais annexé à Paris depuis presque 3 décennies, l'endroit reste toujours à part. Une autre âme règne ici. Tout jeune, Vincent ne rêvait que d'une chose, dévaler cette même pente pour aller découvrir la ville et ses promesses de merveilles. La nuit, de ce point culminant, la casquette trop grande que son père lui avait offerte vissée sur la tête, il restait des heures à contempler les fascinantes myriades de lumière. Il pouvait suivre la progression des allumeurs de réverbères qui, point à point, de rue en rue, répandaient les lueurs comme une nuée de lucioles. Dressé sur son promontoire, surplombant la cité et ses innombrables artères, il imaginait les femmes en belles robes et les hommes en habits vivant d'autres vies que la sienne. Parfois, d'en bas, le vent lui apportait des sons inconnus dont il s'amusait à tenter d'identifier la cause. Paradoxalement, aujourd'hui devenu homme, il ne se sent jamais aussi heureux que lorsqu'il remonte chez lui. Prendre la direction de son village lui ôte un poids. Il vit cette ascension comme une libération. Là-haut, plus besoin de se composer un personnage, plus d'obligation de soigner excessivement ses propos, aucune nécessité de se comparer ou de se justifier. Dans ces parages, il peut se contenter d'être lui-même. D'un pas serein, Vincent achève son escalade à travers ce qu'il reste des taillis. À peine parvenu au sommet, il doit éviter les ouvriers qui fourmillent sur l'immense chantier de la future basilique du Sacré-Cœur. Comme chaque jour depuis des années, l'interminable procession des charrettes nourrit le monstrueux édifice de blocs d'une roche rare et dure, ayant la particularité de blanchir au contact de la pluie. On les achemine depuis le sud de Nemours. Pas étonnant que la construction ait du mal à être financée, malgré le succès de la souscription. L'ogre n'en finit pas d'étendre son emprise en s'élevant peu à peu, affamé de tout ce que peut lui offrir la dévotion d'un peuple. Bien que loin d'être achevé, l'édifice s'annonce déjà écrasant. Ses fondations à elles seules ont défrayé la chronique. Les premières, ayant été englouties accidentellement dans les restes des galeries des anciennes carrières de gypse qui minent la butte. Alors que le monument se voit déjà de partout dans Paris, beaucoup en oublient la vénérable église Saint-Pierre, voisine, doyenne des lieux de culte de la capitale, laissée à l'abandon après avoir été malmené par la Révolution, les guerres, et même défiguré par cet abominable sémaphore de communication inventé par Monsieur Chappe. Une honte. Sa cloche ne sonne même plus. La plus ancienne des constructions de Montmartre, la plus sacrée encore debout, réduite au silence. Les vrais habitants n'aiment pas que la voix de leur but se soit tue. Tous refusent de se contenter des carillons des églises d'en bas pour rythmer leur journée. Vincent se faufile parmi les travaux. Même tôt le matin, c'est une armée de tailleurs qui s'affairent sur les pierres immaculées avant qu'elles ne soient hissées par les ouvriers de force vers les maçons juchés sur les énormes échafaudages. Chaque pièce du puzzle prend place sur les murs de plus en plus hauts. Les colossales structures de soutènement en bois empêchent encore de saisir l'architecture de l'ensemble, même si le porche aux 3 arches byzantines est terminé. S'il n'était pas dédié au Christ, le bâtiment serait maudit, tant son existence et sa forme sont décriées. Personne ne sait quand cette nef, qui défie l'entendement, s'arrêtera de monter. En contrebas, terrassiers et forçats redessinent le flanc de la colline. On raconte que bientôt, un spectaculaire escalier descendra en lieu et place des champs et des chemins tortueux. Avant, de cet endroit précis, on ne voyait que le ciel et les ailes des moulins qui tournaient au gré des vents. On en a compté jusqu'à 14. il n'en subsiste plus que deux, dont l'un s'est reconverti au concassage de roches pour survivre. Jour après jour, Vincent constate l'avancement de l'ouvrage. Ce n'est pas qu'il s'y intéresse réellement, mais il s'entête à emprunter le même chemin qu'autrefois pour descendre sur Paris. Il ne veut rien changer de sa route. Les fondations pharaoniques et les bâtiments sortant de terre l'ont peu à peu obligé à décaler ses pas, mais il trace toujours sa voie au plus direct. Cela résume assez sa philosophie de vie. Il traverse si souvent le chantier que bon nombre d'ouvriers et même de contremaîtres ont fini par prendre l'habitude de le saluer, pensant qu'il travaille lui aussi sur le site. Vincent les salue en retour. Se mêler à toutes sortes de gens ne lui pose aucun problème. Il s'arrête un instant sur le futur parvis. Sa nuit blanche dans l'hôtel particulier du prince commence à se faire sentir. Insensible à l'agitation qui l'entoure, il contemple l'horizon et la capitale qui s'étend en contrebas. Voir loin. Prendre du recul. Il sait que c'est important. C'est sans doute d'ici qu'il a appris l'intérêt de prendre de la hauteur, à tous les sens du terme. La ville offre toujours mille sujets de curiosité à ceux qui s'y aventurent. Dans les rues grouillantes, tout peut amuser, attirer, provoquer l'envie ou le désir. Cela occupe, distrait, mais cela aide rarement à savoir où l'on doit vraiment aller. L'esprit hésitant y perd vite son chemin. Par-delà les avenues nouvellement tracées, la tour métallique de 300 mètres, construite par Monsieur Eiffel, se dresse, achevée, malgré les protestations, après seulement 2 ans et 2 mois de travaux. Tout va si vite aujourd'hui. Sa silhouette rouge élancée balafre l'horizon et défie l'azur. Elle est aujourd'hui, des 5 continents du globe, la plus haute construction jamais bâtie par la main de l'homme. La nuit, elle devient un phare qui irradie son aveuglante lumière sur la capitale. Depuis le 31 mars dernier, voilà à peine quelques semaines, elle accueille les visiteurs du monde entier. Ses ascenseurs ne seront pas en fonction avant l'inauguration de l'exposition qui s'étend à ses pieds, prévue pour début mai. Pourtant, ce sont tout de même des milliers de curieux qui s'élancent chaque jour à l'assaut de ces 1792 marches après avoir payé 5 francs pour pouvoir y monter. On dénombre déjà de nombreux malaises à partir du 2e étage, dû, selon les spécialistes, à l'altitude. Paris est en train de changer, et pas uniquement à cause de grands travaux ou de majestueux monuments. Tout ce qui se passe annonce un monde nouveau. Bientôt les inventions et les progrès transformeront la vie de chacun. Il n'y a pas si longtemps, Vincent jouait encore au sommet de la butte avant que maisons lézardées, greniers de meuniers et bicoques de fortune ne soient rasées pour faire place à la future basilique. Beaucoup de ceux avec qui il a grandi vivaient tout près. L'été, ils s'amusaient ensemble dans les ruelles sinueuses et pentues, ne s'interrompant que pour se gaver de fruits chapardés dans les vergers alentours. L'automne leur offrait le raisin et la joie des vendanges. Ce décor bucolique a presque entièrement disparu. Il ne reste plus qu'un unique champ encore cultivé, et seul l'ouest du village échappe au réaménagement. Les moulins ont cédé la place à des balles et des guinguettes. On vient désormais ici pour se divertir. C'est dans ce monde qui se cherche que le monument sacré s'est imposé, bouleversant le cours des choses de bien des façons. La plupart des points de repère chers à Vincent disparaissent les uns après les autres. Par contre, à l'angle de la rue des Saules et de la rue Saint-Vincent, le lapin agile est toujours là. Ce cabaret dont s'échappent rire et chant quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. À l'époque où il s'appelait encore le rendez-vous des voleurs, son père venait y discuter presque chaque soir pour être certain de trouver du travail le lendemain. C'était juste avant qu'on ne le rebaptise le cabaret des assassins. Malgré son attachement au symbole de son enfance, Vincent aurait préféré que cet établissement-là soit détruit et qu'il n'en reste absolument rien. Un ordre hurlé à un ouvrier tout proche le fait sursauter.
« Remets-toi au travail !»
Vincent interrompt sa rêverie. Sa conscience aurait pu lui crier la même chose. Il est attendu.